France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Bienvenue dans le 7-9, bonjour à tous, nous sommes le mardi 16 décembre. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, quel vaccin, pour qui, à quel moment le gouvernement présente aujourd'hui à l'Assemblée sa stratégie de vaccination lors d'un débat sans vote? La première étape pourrait démarrer fin décembre, début janvier. On en saura plus à 8h20 avec l'immunologue, président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale anti-Covid. J'ai nommé le professeur Alain Fischer. Le standard vous attend, il est déjà ouvert. 01 45 24 7000. Les autres titres, Agnès.
Des bus itinérants pour tester les habitants des campagnes. Reportage dans le Gers. Parole d'électeurs marseillais après la démission de Michel Rubirola qui cède sa place à Benoît Payan. L'acquittement au Québec de Gilbert Rozon, producteur d'humoriste français, est poursuivi pour viol. Et puis nous embarquerons à bord du bateau de Yannick Bestaven, le temps d'un reportage agité dans les mers du Sud.
Et votre invité à 7h50, Léa?
C'est un des plus grands groupes français du CAC 40, mais ses patrons parlent rarement. Comment Bouygues a-t-il traversé cette année inédite? Comment va le groupe? Comment se positionne-t-il dans la bataille de la 5G? Olivier Roussat, le directeur général de Bouygues, sera avec nous à 7h50.
Et voilà le programme de ce mercredi 16 décembre, et pas mardi, comme je l'ai dit à l'instant.
France Inter.
Les Français entre défiance et impatience. Défiance vis-à-vis d'un nouveau vaccin et impatience d'en finir avec cette pandémie. L'objectif du gouvernement est donc de jouer la transparence pour convaincre. Le Premier ministre présente cet après-midi aux députés la stratégie vaccinale choisie par le gouvernement pour lutter contre le Covid. Il fera de même demain devant les sénateurs. Chacun pourra ainsi se faire son idée, insiste le président de l'Assemblée nationale. Une campagne, Daniel Messager, qui devrait comporter plusieurs phases.
La première concerne les résidents des EHPAD et les professionnels de santé qui y travaillent et sont à risque. Qui les vaccinera? Les infirmiers de ces EHPAD sous la supervision d'un médecin, c'est ce que vient de préciser la Haute Autorité de Santé. Mais après, pour les autres populations, tous les professionnels de santé devraient être sollicités. C'est en tout cas ce qu'estime François Chaste, pharmacologue à l'hôpital Necker.
Il faut que les médecins généralistes aient accès à la vaccination, que les hôpitaux puissent, au niveau des consultations, pouvoir vacciner la population environnante et que les pharmaciens puissent le faire. Si l'objectif est de vacciner 30 millions de Français d'ici l'été prochain, il faut l'organiser en termes de ressources humaines qui permettra de réaliser chaque jour 200 000 vaccinations.
Le Premier ministre va s'employer aussi à rassurer les Français qui doutent du vaccin. Beaucoup de défis à relever pour Bruno Lina, virologue, membre du Conseil scientifique.
Il y a tout à ne pas rater. Emporter l'adhésion tant des soignants que des personnes qui vont recevoir ce vaccin. La vaccination doit vraiment être considérée comme un atout qui va nous permettre de sortir plus vite de cette crise. Il ne peut être accepté que si on a une volonté d'expliquer réellement ce que ce vaccin est capable de faire et ce qu'il ne peut pas faire.
Au Premier ministre d'exposer un calendrier précis, quel vaccin, pour qui et à quel moment.
Et au cours d'un déjeuner hier avec les chefs de groupe de l'Assemblée, Emmanuel Macron a évoqué l'idée de lancer la campagne de vaccination le même jour dans tous les pays d'Europe. Sous la pression de l'Allemagne, l'Agence européenne des médicaments a d'ailleurs annoncé qu'elle se pencherait dès lundi prochain sur le cas du vaccin Pfizer-BioNTech avec un possible début des vaccinations avant la fin de l'année. En attendant, à l'approche des fêtes, ce sont les campagnes de dépistage qui se multiplient, avec la région Auvergne-Rhône-Alpes qui propose à partir de ce matin de tester gratuitement ses 8 millions d'habitants. Dans les grandes villes, le carnet de rendez-vous des labos et des pharmacies se remplit à la vitesse grand V. Et dans les campagnes, ce sont des bus itinérants qui proposent des tests. Reportage à Tournecoupe, village gersois de 230 habitants, où s'est rendu Stéphane Iglesis.
Vous allez mettre votre tête en extension. Je vais rentrer les couvillons dans la fosse nasale jusqu'à ce que je sente une butée.
La salle des fêtes est bien remplie. Le bus des services publics mobiles du Gers est stationné devant et en ce moment, ce dispositif de test mobile Covid-19 est très apprécié dans les petits villages.
Je vais en famille à la fin de la semaine, donc je voulais être sûre d'être négative avant d'aller passer le week-end dans ma famille, dans le Poitou, et donc c'est pour cette raison que je suis venue. Ma fille travaille en EHPAD, donc je tenais à être sûre de ne pas lui apporter le virus.
Oui, c'est une sécurité parce que je monte en famille, Et donc voilà, je vais être sûre de rien avoir.
Je le fais peut-être pour me rassurer un peu, sachant que bon, je ne recevrai pas les enfants à la Noël. C'est eux qui l'ont décidé. C'est très triste.
Marilène Costa est l'une des deux infirmières libérales de Florence qui a né dans le guidon avec ses écouvillons, surtout que certains ont besoin des tests pour prendre l'avion.
Et on leur demande de moins de 72 heures. Sauf que vous avez les gens qui partent le 26, ça nous met des conditions, mais au niveau des labos, ils ferment le 24 à midi, donc on est juste. Hein.
D'ailleurs, le département appliquera si nécessaire le même dispositif pour des vaccinations contre le Covid-19 quand elles seront disponibles. Tourne-coupe dans le Gers, Stéphanie Iglesias, France Inter.
Et aujourd'hui, le bus de dépistage est à Terre d'Armagnac et Bernède et il sera demain à Baie-des-Champs. À noter que l'Agence américaine du médicament vient de donner son feu vert à la commercialisation aux États-Unis du premier test Covid-19 à faire à la maison et sans ordonnance. Réponse du test au bout de 20 minutes et le test coûte $30.
Il est 7h06, Agnès, conseil municipal sous haute tension, lundi prochain à Marseille.
Car les élus devront désigner un nouvel édile. Michel Rubirola a jeté l'éponge hier après-midi après seulement 5 mois passés à la tête de la ville. Dépassée par la crise sanitaire et la situation financière de Marseille et freinée par ses ennuis de santé, elle a d'ores et déjà désigné son dauphin, le socialiste Benoît Payan, pour lui succéder. Alors, qu'en pense la Marseillaise ? Reportage de Romane Pourcon.
Sur le vieux port de Marseille, à deux pas de la mairie où Michel Rubirola a annoncé sa démission, Isabelle n'est pas vraiment étonnée.
J'ai pas été vraiment surprise. D'abord, on en parlait depuis quelques temps. Je trouve honnête de dire, je me sens pas d'y aller, je me sens pas de rester. Je trouve ça honnête, moi. Courageux, très honnête et transparent. Par les temps qui courent, c'est pas mal.
Une décision acceptée par Adeline qui avait voté pour elle.
On comprend même, quand on l'a su, on était déçus, quoi. On était tristes, mais bon, il faut être costaud parce qu'il y a du boulot. Donc non, je comprends tout à fait, surtout si c'est des raisons médicales, personnelles, etc. Voilà.
Mais quand des élus d'opposition estiment que les Marseillais devraient pouvoir revoter, André en est convaincu.
Oui, parce qu'on vote pour un maire, et puis bon, on s'aperçoit qu'après, elle n'est plus là, quoi. Donc. Il y a un remplaçant, mais qu'est-ce qu'il vaut ? C'est vrai qu'on n'aurait pas voté pour lui, maintenant, s'il est là, s'il va être élu, hein. Il n'y a pas le choix, quoi. On nous impose et puis c'est tout, puis finalement, c'est des votes, mais finalement, on ne peut pas dire qu'on choisit, quoi.
Le vote aura donc lieu lundi prochain, lors du dernier conseil municipal. Marseille, Romaine Porcon, France Inter.
Et Thomas Legrand, dans son édito politique, reviendra sur cette affaire marseillaise à 7h42. C'est une nouvelle arnaque qui concerne les comptes personnels de formation auxquels chaque salarié a droit. Un an après sa création, l'application Mon Compte Formation enregistre 38 millions d'utilisateurs, mais n'échappe pas à la fraude. 6 000 comptes auraient ainsi été floués pour un préjudice estimé à 7 millions d'euros. Alors, comment manœuvrent les escrocs ? Élément de réponse avec Hélène Philly.
Commence souvent par un coup de téléphone d'une personne qui se présente comme conseiller CPF. Il propose à l'usager de mettre ses droits à jour et lui demande donc ses identifiants. Mais une fois les données personnelles en poche, le fraudeur peut tranquillement siphonner le compte formation, désormais crédité en euros. Les témoignages de victimes de plus en plus nombreux ont poussé la Caisse des dépôts à agir et à ce stade, il y en a pour près de 7 millions d'euros de préjudice. Cela reste relativement limité si on le compare aux milliards d'euros dépensés en vraie formation sur un an, mais il ne faudrait pas que les arnaques prennent de l'ampleur. Et les escrocs ont de la suite dans les idées. Certains inondent l'application d'offres de formation pour être sûr d'arriver en tête de toutes les requêtes. L'anomalie est dans ce cas vite corrigée par la Caisse des dépôts. Plus compliqué à traquer, ceux qui font croire que les heures DIF, droit individuel à la formation, vont s'éteindre au 31 décembre prochain. On a en réalité 6 mois de plus pour basculer ces heures sur le CPF et donc tout le temps les utiliser.
L'association UFC Que Choisir de son côté alerte sur le boom des crédits à la consommation en cette période de crise. Nous y reviendrons dans le journal de 8h. La fin du procès des attentats de janvier 2015 après 3 mois d'audiences intenses et parfois chaotiques. La cour d'assises rend son verdict cet après-midi. 14 accusés, des peines de 5 ans à la réclusion criminelle, la perpétuité requise et un procès intégralement filmé pour l'histoire. En bref encore, verdict attendu également aujourd'hui devant les assises du Rhône. 30 ans de réclusion ont été requis à l'encontre de Cécile Bourgeon et de son ex-compagnon Berkane Maclouf. Accusé d'avoir tué et enterré la petite Fiona, âgée de 5 ans, son corps n'a jamais été retrouvé. Au Québec, c'est une autre affaire qui fait la une de l'actualité. Le premier procès post-MeToo à Montréal. Et le fondateur du festival Juste pour rire, ancien juré de l'émission La France a un incroyable talent sur M6, Gilbert Rozon, 65 ans, a finalement été acquitté hier. Il était poursuivi pour viol et attentat à la pudeur pour des faits remontant à 1980. Pendant le procès, l'accusé a adopté une stratégie qui lui a permis de bénéficier de ce qu'on appelle là-bas du doute raisonnable. Correspondance à Montréal d'Hélène Jouan.
Lors du procès, la défense de Gilbert Rozon avait constitué un véritable coup de théâtre. La victime, 20 ans à l'époque des faits, avait raconté à la cour comment le producteur, rencontré le soir même dans une discothèque, l'avait violée au petit matin dans son sommeil, dans un chalet où elle avait accepté de passer la nuit. 40 ans après, j'éprouve toujours la même colère, avait-elle confié. Mais Gilbert Rozon avait choisi d'opposer à son récit une version totalement inverse. C'est elle qui serait venue le rejoindre dans sa chambre pour abuser de lui. Parole contre parole, la stratégie s'est avérée payante. Même si le tribunal ne croit pas la version des faits donnée par M. Rozon, celle-ci soulève tout de même un doute raisonnable, a déclaré la juge en prononçant l'acquittement de l'ex-mentor de l'humour. La victime, Annick Charette, qui s'exprimait pour la première fois à visage découvert, est sous le choc.
C'est incroyable comme sentiment d'impuissance. À toutes les victimes, j'aimerais vous dire ceci. N'ayez pas honte. La culpabilité que vous ressentez ne vous appartient pas. Malgré la déception d'aujourd'hui, je vous invite à dénoncer. Parce qu'ainsi, les choses pourraient changer.
Les choses pourraient changer, mais c'est un jour sombre pour toutes les victimes d'agressions sexuelles au Québec, a-t-elle conclu, amère. Montréal, Hélène Jouan, France Inter.
Enfin Nicolas, une belle bagarre en tête du Vendée Globe. Un match à trois au sud de l'Australie entre le leader Thomas Ruyant, son dauphin Yannick Bestaven et Charlie Dalin. Un classement qui pourrait être bouleversé. Le jury de la course doit dévoiler aujourd'hui les bonifications dont vont bénéficier ceux qui se sont portés au secours de Kevin Escoffier. Jean Le Cam et Yannick Bestaven sont concernés. Yannick Bestaven qui pourrait ainsi devenir le nouveau leader de ce Tour du Monde, Jérôme Val.
Mais qu'est-ce que j'aime pas ça, monter dans le mât. Et encore, je suis pas tout en haut. Hein.
Escalader le mât pour réparer une voile déchirée, voilà la vie pas toujours rêvée d'un navigateur du Vendée Globe.
Oh putain, le Vendée Globe, c'est pas les vacances, hein, les gars.
Mais c'est le prix à payer pour être aux avant-postes. Le skipper originaire de La Rochelle est en train de réaliser un gros coup.
Je savoure de vivre ce Vendée Globe en étant aux avant-postes avec un bateau en bon état.
Et encore, il a consacré du temps au sauvetage de Kevin Escoffier. Ma pire nuit en mer, raconte Yannick Bestaven, 9 heures à faire des ronds dans l'eau. Un temps qui pourrait lui être retranché et faire de lui un leader virtuel, même s'il ne veut pas y penser.
Il n'y a pas de leader virtuel, ça ne veut rien dire, ça n'existe pas, il n'y a pas de débat là-dessus. La modification, je regarderais ça par irresponsable.
Il lui a fallu 12 ans pour revenir sur un Vendée Globe après son abandon en 2008, euphorique enfin de découvrir les mers du Sud malgré les douleurs.
Des douleurs de dos, des douleurs musculaires, ces bateaux sont durs, finalement il faut pas craquer, il faut tenir. Des fois je me réveille bonne sciatique dans la jambe droite, hein. C'est plus physiquement que c'est dur que moralement.
Le navigateur de 47 ans veut créer la surprise, même si le chemin jusqu'au Sable d'Olonne est encore semé d'embûches.
Reportage de Jérôme Val et ainsi va la dure vie des marins du Vendée Globe.
Merci Agnès Soubiran.